Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir aujourd'hui dans l'émission Écho de ma commune et de mon canton. Nous allons aujourd'hui rester à Chartres où il fait si bon vivre. Nous allons évoquer tout d'abord une convention de partenariat opérationnel, scientifique et culturel signée cette semaine entre Chartres Métropole et l'INRAP, l'Institut National des Recherches Archéologiques Préventives. Vous le savez, aux côtés de l'INRAP, la direction de l'archéologie de Chartres Métropole compte parmi les grands services français habilités à des missions d'archéologie, en priorité des recherches préventives et des études. Mercredi dernier, les deux établissements ont signé cette convention de partenariat qui devrait leur permettre de développer une mise en commun de leurs compétences, de leurs moyens et de leurs expertises pour collaborer à des opérations d'archéologie préventive au service des aménageurs de l'agglomération chartraine, mais aussi de travailler conjointement sur l'étude des connaissances et leur partage vers le public. À l'issue de la signature de cette convention, j'ai tendu mon micro à Dominique Garcia, président de l'INRAP, et à Jean-Pierre Gorge, président de Chartres Métropole, et lui aussi passionné d'archéologie. Mais en premier lieu, j'ai demandé à Dominique Garcia de nous présenter l'INRAP.
L'INRAP est un établissement public, donc sous tutelle du ministère de la Culture et du ministère de la Recherche, dont la mission est de concilier, en fin de compte, deux actions fortes de l'État, l'aménagement du territoire et la préservation du patrimoine. Donc on fouille en préalable à des travaux d'aménagement pour étudier les vestiges, les révéler d'abord. C'est les archéologues que vous voyez sur les tracés des autoroutes, des TGV, des parkings, des maisons individuelles. Donc on pointe les sites, on les découvre, on les fouille, on libère le terrain pour que l'aménagement puisse se faire, et le résultat de nos recherches sont ensuite partagés dans les musées, dans des conférences, dans des livres. Et donc on travaille partout sur le territoire national et on travaille en lien avec des services archéologiques comme celui de Chartres, où on est très heureux de pouvoir travailler ensemble depuis plusieurs années et de continuer dans l'avenir à travailler pour libérer au plus vite les terrains, mais pour les expertiser au mieux lorsqu'on est sur le terrain, et ensuite partager la connaissance avec l'ensemble des citoyens.
J'ouvre une parenthèse, vous avez fait le distinguo entre archéologie propre et archéologie sale tout à l'heure. C'est quoi l'archéologie sale ?
Non, pas du tout. Je l'ai fait effectivement, mais je pense que l'archéologie n'a de sens que si elle est menée de manière rigoureuse et partagée avec le plus grand nombre. Une archéologie qui est cachée, qui est fossilisé, n'a pas de sens. On n'est plus autant des cabinets de curiosité, on est là pour montrer l'histoire du territoire dans lequel on est appelé à vivre et de le partager avec un plus grand nombre. Donc cette archéologie propre ou cette résilience patrimoniale que je mets en avant, c'est celle que pratique l'INRAP en disant on fouille et on partage. Et ça me paraît essentiel. Un site archéologique n'est pas fait pour être sanctuarisé, pour être fossilisé, mais pour être perçu, connu et partagé.
Jean-Pierre Gorge, je vous ai écouté attentivement. Vous avez longuement développé les relations qui sont complexes entre finalement une ville et puis son service d'archéologie, mais aussi avec l'INRAP, l'archéologie préventive retarde forcément par définition les projets, mais elle peut aussi être un outil de développement.
Non, jamais l'archéologie a décalé un projet. Non, mais avec du diagnostic. Non, parce que vous savez que, regardez, je vous montre le projet de la gare. Le projet de la gare, on commence à travailler dessus en 2004. On choisit un projet en 2006. Il va se finir en 2024. La partie construction, c'est qu'à la fin, vous avez tout un tas de phases administratives avant, complexes, des études d'impact, tout ça. Et l'archéologie, il suffit de la glisser là-dedans. Le projet du parking, il s'est fait en 18 mois. 1200 places, sous une nationale, en plein centre-ville, avec un réseau télécom dedans. À quel moment l'archéologie a gêné ? Jamais, jamais, jamais. Ce n'est jamais arrivé à Chartres. Donc, non, si on s'y prend correctement, quand vous avez un projet qui dure 2 ans, 3 ans, regardez ici, ça a duré 6 ans le projet, la phase d'archéologie, personne ne l'a vu. C'est faux, c'est jamais arrivé ici. Non, après, ça c'est l'idée que les gens se font. Parce que vous savez, justement, avant 2000, qu'est-ce que faisaient les gens ? C'est ce qui s'est passé à Chartres. On creusait, on regardait ce qu'il y avait en dessous pour savoir ce qu'on allait faire. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Les gens ont peur de l'archéologie. L'archéologie, vous creusez, vous trouvez des objets, vous examinez. Si c'est banal, donc les gens vont regarder, c'est des déchets, trucs, on examine tout ça. Si on trouve quelque chose qui est intéressant, eh bien, l'objet devient quelque chose d'intéressant qui va prendre sa place dans un espace muséographique. Maintenant, s'il y a quelque chose de structurel qui doit être gardé, c'est très rare, très rare. On l'a à Chartres avec Saint-Martin-au-Val. Eh bien, ce n'est plus un projet immobilier, mais là, ça devient un lieu important au niveau national. Et demain, je vous garantis, ça sera une sacrée destination. Et sacrifier un petit espace où on voulait faire quelques logements qui auraient une durée de vie de 50 ans, 60 ans, qu'on cassera pour quelque chose qui est là depuis près de 2000 ans, hein, vous voyez, ici, et qui va vivre avec la population. Moi, je rêve de trouver des choses partout. Vous voyez ? Donc, l'archéologie ne gêne jamais, jamais, jamais.
Parfois, il ne faut pas creuser trop profond, vous l'avez dit.
Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est que ce qui peut perturber, c'est que, vous voyez, quand vous avez un projet, vous dites, mettons, vous allez faire deux niveaux de parking, vous allez descendre à 5 mètres, des choses comme ça. Ben, les fouilles se limitent aux espaces que vous allez utiliser, c'est normal. Mais vous savez, je veux dire, des fouilles, ou des endroits où il y a des fouilles plus bas que 5 mètres, c'est très rare. Et vous avez tout à un mètre du sol. Là, ici, vous tapez des endroits, vous avez du romain, vous avez, à un mètre, vous tapez, vous l'avez en dessous. Ça n'a pas bougé. Des agriculteurs, ils passent la charrue dans des champs, ils déterrent quelque chose à un moment donné. Parce que nos anciens, ils vivaient pas sous terre, vous voyez. Donc, en fait, c'est très facile, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il y a une période où il y avait beaucoup de développement. Les gens ont vu quelques contraintes là-dessus. Et c'est devenu, vraiment, on tirait sur l'archéologie. Alors, moi, j'expliquais ça tout à l'heure. Je participais à partir de 2002 pour qu'on donne la possibilité d'avoir beaucoup plus de moyens qu'avait l'INRAP. L'INRAP ne peut pas fouiller toute la France en même temps. Ou alors, enfin, un énorme service, alors qu'il y a des possibilités de faire ça dans les collectivités. Donc, la loi était un peu plus loin. Elle permet à des structures privées de le faire. Moi, je dis attention là, parce que... Dans la partie archéologie, vous êtes parti de diagnostic, vous faites des prescriptions, on fouille. Mais après, ce qui est important, c'est tout le travail scientifique à faire. Si vous avez creusé sur quelque chose, ça a été étudié, et puis que derrière, vous ne sortez pas un résultat, quoi, une synthèse de ce que... Et puis, qu'est-ce que ça dit sur la ville, ben, vous êtes passé à côté. Si c'est juste trouver des objets, c'est la pêche au moule. Hein, vous allez vous racler le sable et puis vous récupérez quelques bigorneaux, des choses comme ça. Donc, c'est scientifique. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, maintenant, c'est vrai que ça coûte un petit peu. Parce que ça va rajouter du prix au projet. Mais quand je regarde les marges qui sont faites dans tous ces projets, j'expliquais tout à l'heure ici, vous savez, je disais en 2000, c'était 1 500 € le mètre carré du haut de gamme à Chartres. Aujourd'hui, on est plus de 5 000, vous voyez. Donc, c'est une goutte d'eau dans le projet. Donc, le privé peut financer ce bien public qui sera au service de tout le monde. Et quand vous trouvez des choses très intéressantes dans une ville, ça améliore la destination de la ville. C'est pour ça que, bon, dans ce projet qui est devant la cathédrale, j'essaye de faire un triptyque, je disais tout à l'heure, en surface, quelque chose d'intéressant pour les manifestations religieuses ou culturelles. En dessous, un espace muséographique pour expliquer l'histoire de cette ville, parce que c'est vraiment, elle est passionnante, cette ville. Une ville en France qui a peut-être plus grande histoire. Et puis ensuite, en dessous, si vous avez des choses à montrer, ben voilà, il y a des gens qui se déplacent. Vous savez, moi, je suis allé plusieurs fois à Pompéi, je me balade un peu partout dans le monde. À chaque fois qu'il y a un lieu comme ça, je prends du temps là. Je passe plus de temps à la limite là que d'être sur la plage, quoi, vous voyez, parce que c'est intéressant de comprendre notre histoire. Et maintenant, il y a un autre phénomène, c'est que la technologie a donné tellement de possibilités de trouver des lieux, un certain nombre de choses. Vous avez vu, là, ce qu'on vient de mettre, notre mammouth, là, qui est pas celui de Chartres, mais on a trouvé un mammouth à côté, là, à Saint-Pré, enfin, à Chartres. Alors, les gens demandent pourquoi on a trouvé un mammouth là. Vous savez pourquoi on a trouvé un mammouth à cet endroit-là ? C'est parce qu'on a creusé. Il vous en a peut-être un à côté, vous voyez ? Mais à partir du moment qu'on trouve... Ben, on arrive à expliquer une partie de l'évolution de la vie de l'homme. C'est intéressant, ça c'est de la nourriture culturelle. Et moi, l'archéologie, je ne la considère pas comme une dépense, je la considère comme un investissement. Voilà. Si vous le considérez comme un investissement, c'est autre chose. Hein, voilà. Donc, et à Chartres, On est dans cet esprit-là. En fait, on a une organisation qui est équivalente de celle de l'INRAP. L'agglomération intervient en archéologie dans tout ce qui est aménagement, et la ville sur la partie culturelle, scientifique, où il n'y a pas de retour direct, sinon que l'attractivité de la ville. Et voilà. Donc voilà, comment c'est organisé. Et l'INRAP, pareil, fait l'ensemble de ce qu'on fait, mais à niveau national. Et on a besoin de quelqu'un qui consolide au niveau national. Et voilà.
Ces dimensions culturelles, mais aussi le fait que ça peut devenir un outil de développement économique via le tourisme, notamment. Je pense à ce projet que vous avez sur Saint-Brice avec Paul Chemetov, l'auteur de la médiathèque.
Bien sûr, sur Saint-Brice, on a un beau projet fait par Paul Chemetov, mais qui s'appuie là-dessus, sur cette découverte archéologique. C'est merveilleux de trouver ce sanctuaire là qui fait 300 mètres sur 200 mètres. Donc à chaque fois qu'on aura l'occasion, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va bouger, et bon, moi, je suis en train de le faire. Et ben, on enlèvera tout ce qui va bouger là, qui n'a pas à rester là. Bien sûr, on ne va pas toucher à cette église avec cette crypte semi-enterrée du VIe siècle.
Ça ne fera pas plaisir à Jacques Baroche.
Non, on ne va pas toucher à Saint-Martin-Val, pas toucher à l'abbaye, mais tout ce qu'il y a autour qui n'a rien à y faire, on l'enlèvera. Et là, ça va être une destination. Et c'est 1000 ans avant la cathédrale. Vous imaginez, c'est 1000 ans avant la cathédrale. Donc voilà, donc, on trouve du romain là-bas, il y a du romain devant la cathédrale. Et voilà, tout ça, constitue une partie du patrimoine de cette ville et ça augmente son attractivité.
Voilà, c'était Jean-Pierre Gorge, président de Chartres Métropole, et avant lui Dominique Garcia, président national de l'Institut national de recherche archéologique préventive.
Je ne sais plus où j'en suis, de mes jours et de mes nuits, aplati dans la poussière, je balbutie terre ma terre, mon enfantine ronde, ma fumante soupière sur la nappe du monde, terre ma terre. Ma terre dolorosa, quitte quoi fait l'hiver d'un grain de mimosa. Terre, pays des arbres buveurs de ciel. Terre, grossesse à la taille d'arc-en-ciel. Terre, sombre caveau de nos ossements. Terre, cinéma muet de notre tourment. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus quoi je suis, aplati dans la poussière, je balbutie terre ma terre, patrie prédestinée, dont les dieux méditèrent la Méditerranée. Terre ma terre, mon bel astre innocent, qui rit en solitaire et bave un peu de sang. Oh, terre, il ne sera pas dit non, il ne. Terre, il ne sera pas dit que tu mens. Terre, à coups de cime ou bien de cime. Terre, avant que je n'aie percé le mystère au fond du puits, de mes jours et de mes nuits. Et balayer la poussière qui souille mon habit, mon organique habit qui m'habite. Terre, ma terre, oh ma terre chérie, toi qui me fis des ailes à la terre, panthère, rayée comme le temps d'apercevoir les terres et de crier maman. Je ne sais plus où j'en suis, de mes jours et de mes nuits, aplati dans la poussière, je balbutie terre, ma terre.
Terre Dolorosa, c'était l'inoubliable et tant regretté Claude Nougaro. Une nouvelle plaque commémorative a été apposée cette semaine sur la maison natale du général Marceau à Chartres. L'occasion, eh bien, de nous rafraîchir à la mémoire qui était au juste le général Marceau dont la statue trône désormais place des Éparts. Eh bien, je vous propose de la prendre de la bouche de Marie-Françoise Soulier, anciennement prof d'histoire au lycée Marceau, mémoire vivante du lycée, et aujourd'hui présidente du musée de l'école de Chartres.
J'ai passé les plus merveilleuses années de ma vie dans un établissement prestigieux pour la ville et pour le département, car c'est l'établissement secondaire le plus ancien du département, puisque ses origines remontent au XVIe siècle, le lycée Marceau. C'est seulement en 1887 que cet établissement secondaire est devenu lycée. Il avait été école centrale pendant la Révolution, mais au moment de l'Empire, eh bien, nous n'étions peut-être pas assez prestigieux pour devenir lycée. Les élèves allaient au lycée de Versailles. Il a fallu donc attendre 1887, la volonté de la municipalité, de beaucoup de personnalités locales, pour que cet établissement qui s'appelait collège devienne le lycée en octobre 1887. Lycée de Chartres. Il faudra attendre encore 6 ans, c'est-à-dire 1893, pour que le lycée s'appelle lycée Marceau, du nom de ce héros extraordinaire, François Séverin Desgravier Marceau, né à Chartres, dans la rue qui porte son nom et où se trouve maintenant une maison d'optique. C'est pour voir encore plus loin et pour porter la vue, je dirais, presque d'avant-garde d'un général qui, certes, a connu la guerre, a connu les horreurs de la guerre, mais chaque fois où il s'est trouvé au combat, que ce soit en Vendée, où, il faut bien le dire, un génocide a eu lieu, il a conservé l'humanité. Et quand il est mort à Altenkirchen, à l'âge de 27 ans, il a été général à 23 ans.
C'est le plus jeune général de la Révolution, c'est de la République.
Oui, donc 23 ans, c'est extraordinaire. Il est mort à Altenkirchen, à l'âge de 27 ans. Qui est-ce qui est venu lui rendre les honneurs, entre guillemets, ses ennemis, qu'il admirait, c'est-à-dire les Autrichiens. Alors je rappelle à la mémoire de nous tous, Chartrains, qui sommes très attachés, je crois, à 3 images. La cathédrale, bien sûr, l'image emblématique de Jean Moulin, évidemment, mais celle du général Marceau.
C'est aussi un symbole de la République. C'était un fervent républicain.
Symbole de la République, symbole de la Première République, et il faut attendre, vous le savez, la Seconde République, le 21 septembre 1851, pour que sur la place des Éparts soit érigée une statue de bronze à sa mémoire. Alors, vous le savez, c'est un sculpteur qui s'appelle Préaux qui a réalisé cette statue. Et quand vous faites une statue de bronze, il faut couler le bronze, il faut faire des moules. Le hasard de la vie fait que un élève de Marceau, du lycée Marceau, qui suivait les cours des Beaux-Arts, donc au musée des Beaux-Arts à Chartres, un jour de distribution des prix s'est présenté à moi. Et puis, je sais pas, j'ai eu un tilt. J'ai dit, mais si on récupérait les moules de cette statue, si on faisait un coulage, c'est ce qui a été fait. La tête du général Marceau, de la statue que vous voyez, place des Éparts, se trouve dans le hall du lycée Marceau.
Ah, c'est vous alors ?
Bien, je crois que c'était quand même extraordinaire. Vous savez que nous avons une section d'art plastique au lycée Marceau, que les élèves suivent des cours de sculpture et autres arts au musée. Un de nos élèves allait donc au musée des Beaux-Arts. Je trouve que c'était une opportunité à saisir que d'utiliser ce moule et de faire un coulage et de mettre la tête du général Marceau dans le hall de notre établissement. Je crois que la République nous marque ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, ses valeurs d'humanité. Aujourd'hui, depuis le 24 février 2022, sont d'une authenticité, d'une importance extraordinaire. Alors, pour la jeunesse de Chartres, pour la jeunesse de notre pays, pour la jeunesse du monde, un exemple d'un jeune général, général à 23 ans, mort à 27 ans, admiré par ses ennemis, humain malgré un génocide, que cette image nous guide. Alors pour le petit côté féministe, je dirais qu'à Chartres, eh bien, il y a deux grandes personnalités, Marceau et Moulin, qui ont eu une chance extraordinaire post-mortem d'avoir leur mémoire entretenue par leur sœur. Laure Moulin, en ce qui concerne Jean Moulin, et puis l'épouse de Sergent Marceau. Alors au passage, vous savez que le beau-frère de Marceau, Sergent Marceau, c'est à lui que nous devons le sauvetage de la cathédrale, transformé en temple de la raison et que l'on devait détruire. Donc merci Sergent Marceau. Sergent Marceau marié à la sœur aînée de Marceau, qui, vous le savez, s'appelait Marie, mais à cette époque on était républicains, et elle a pris l'anagramme de son prénom. Et nous la connaissons tous sous le prénom de Émira, qui est l'anagramme de Marie.
C'était Marie-Françoise Soulier, qui est un puits de science et qui, par ailleurs, et c'est bien normal, est présidente du musée de l'école de Chartres.
C'était Urbain Lambert, en partance Urbain Lambert, digne représentant français de la musique folk country rock, musique qu'on dit americana, et qui habite Chartres, figurez-vous, et dont nous recevrons la semaine prochaine la fille Valentine Lambert, elle aussi excellente musicienne. Je ne voulais pas vous quitter sans vous avoir touché deux mots d'un très joli projet porté par la région Centre-Val-de-Loire. Il s'agit de la deuxième édition du concours d'éloquence auprès des jeunes de 15 à 25 ans. L'objectif du concours est de donner la parole aux jeunes sur l'Union européenne et de partager leurs réflexions sur son rôle et sa place dans leur vie. Ce concours donne l'opportunité aux jeunes de défendre leur vision de l'Europe auprès des décideurs publics. En équipe de 2 à 6, ils devront transmettre leur exposé de 4 minutes sur vidéo pour la sélection de la finale en répondant à la question « Comment se construit votre sentiment d'appartenance à l'Union européenne ?» Les gagnants partiront bien évidemment avec des cadeaux. Il faut s'inscrire avant le dimanche 22 mai. La finale aura lieu le 8 juin 2022. Pour tout renseignement, conseilrégional@regioncentre.fr. Voilà, je vous fais la bise. Je vous dis à dans 4 semaines pour une nouvelle édition Chartraine d'écho de ma commune et de mon canton. Portez-vous bien.
Des Galapagos.